Je dois vous donner, avant d'oublier, les salutations de nos amis de Lunel. Nous sommes heureux d'être là encore, Marie-Lise et moi. Nous étions là il n'y a pas longtemps, au mois de mai. Et puis, vous savez, comme la montagne, dans la vie, il y a des choses qui changent, et qui changent vite parfois. Au mois de mai, lorsque nous sommes venus au milieu de vous, nous n'étions que grands-parents. Maintenant, nous sommes arrière-grands-parents. Et il est là. Merci. Merci pour nous, pour eux. Voilà. C'est vraiment une grande joie, une grande bénédiction que nous donne le Seigneur. Donc Katia Lalao et Dani sont là. C'est eux qui ont fait ce beau petit, vous le verrez tout à l'heure. Excusez, la joie est grande. Ce matin, j'aimerais vous entraîner dans une méditation qui est basée sur un texte de l'Épître aux Éphésiens et un texte de 1 Pierre. Alors, je vous invite à lire. Moi, je ne suis pas moderne comme vous, je ne fais pas projeter. Je vous invite à lire dans vos Bibles, si vous les avez, ou à écouter, un texte de Éphésiens 2, texte bien connu, Éphésiens 2, verset 19, et ensuite nous continuerons au verset 3, au chapitre 3, pardon, du verset 8 au verset 10. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et donc, chapitre 3, verset 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et le texte de 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Si j'avais un titre à donner à la méditation de ce matin, ce serait « L'Église, édifice spirituel, sanctuaire et signe de Dieu. » Mais pour commencer, j'aimerais vous parler d'un de mes héros favoris du temps de ma jeunesse. Juste pour commencer. En effet, lorsque j'étais enfant, et même plus tard, j'ai été un admirateur de Zorro. Ses aventures me faisaient rêver. C'est normal quand on est enfant. Et puis quand on est plus grand aussi. Vous allez me dire, oh, c'est une drôle de façon de commencer une prédication en évoquant Zorro. Quoique, je pense que même les héros de BD, parfois, ont des choses à nous apprendre. Zorro, mot qui signifie renard en espagnol, là je parle sous l'autorité d'Albert et de Wikipédia, je ne devrais pas le citer. Donc Zorro est un de ces héros de fiction créés en 1919 par un certain Johnson McCulley. C'est un justicier masqué, vêtu de noir, qui combat les justices en Californie mexicaine. Et alors, l'auteur a eu l'idée de génie de donner un signe à Zorro. Et ce dernier, lorsqu'il avait accompli son travail de justicier, signait son œuvre avec un grand Z. Ah, moi j'aimais ça, un grand Z de Zorro. Alors des fois c'était sur la peau de ces méchants bandits, d'autres fois c'était sur un mur ou sur un livre, voilà. Il signait. Et cette lettre Z était donc le signe de Zorro. Et l'attestait que c'était bien lui qui avait accompli telle ou telle prouesse, délivrance ou autre acte de courage ou de justice. Et les pauvres paysans, lorsqu'ils voyaient ce signe, savaient que Zorro était intervenu ou qu'il allait intervenir. Et ce signe leur donnait espoir, car la justice allait triompher des méchants, le bien allait triompher du mal. Je redeviens arrière-grand-père. Un jour, au cours d'une discussion, lors d'une rencontre de découverte de la Bible chez nos amis Stéphanini, à Viltel, il y avait là une dame qui me demandait avec beaucoup de regret, mais Flavien, pourquoi est-ce que Dieu ne se montre pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il se cache, Dieu? Je vous avoue que cette interrogation m'a fait réfléchir et m'a amené aussi à me remettre un peu en question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur ne donne plus de signes de sa présence? Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur ne donne plus de signes de sa présence? Une amie chrétienne, elle me disait une fois, combien il lui serait plus facile de vivre sa foi si elle avait vécu au temps de Jésus. Si elle avait donc pu le voir, l'entendre, éventuellement toucher son vêtement pour être guérie. Oui, nous avons besoin de voir. Et le Seigneur le sait. Et il a donné des signes. En effet, Moïse a eu son arc-en-ciel, signe de l'alliance qu'il faisait avec Dieu. Les enfants d'Israël avaient le tabernacle au désert avec, vous savez, ces grandes colonnes, cette grande nuée le jour et cette flamme la nuit. Ils avaient le signe là, dans le tabernacle, de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et le temple remplissait aussi ce rôle. Les disciples, ben, eux, ils avaient Jésus, comme l'aurait voulu cette amie chrétienne. Ils avaient Jésus, ils voyaient les miracles que faisait Jésus, ils recevaient ses instructions, et il y en a au moins 500 qui l'ont vu après sa résurrection. Les premiers chrétiens aussi, ils avaient les apôtres, les témoins visuels de la résurrection de Jésus-Christ. Alors une question se pose donc. Aujourd'hui, comment est-ce que Dieu se manifeste à son peuple et au monde? Quel signe de sa présence donne-t-il aujourd'hui? Et c'est ici que nous arrivons à l'Église, parce que nous avons quand même lu quelques textes sur l'Église. Une image, entre autres, est utilisée, vous le savez, par les auteurs sacrés pour parler de l'Église. celle d'une construction, d'un édifice. Jésus lui-même utilise cette image en faisant un jeu de mots en Matthieu 16, lorsque Pierre confesse sa foi en lui. Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Voilà sa déclaration de foi. Et Jésus lui répond « Tu es Pierre, tu es Pétros, ou Pierre est ton nom ». Et sur cette pétra, sur ce rocher donc, ce rocher, c'est-à-dire le rocher de la foi en moi, pas sur le rocher que toi tu es, mais sur le rocher de la foi en moi que tu viens de confesser, sur ce rocher-là, je construirai mon église. Vous savez, ce n'est pas autre chose qu'avaient annoncé les prophètes, Ézéchiel en particulier, chapitre 37, versets 26 à 28, « Je conclurai pour eux une alliance de paix. Ce sera une alliance perpétuelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. » Ma demeure sera parmi eux. Et c'est dans l'Église, et c'est par l'Église que se réalise cette prophétie. Paul le souligne en la citant en 2 Corinthiens 6, 16, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Oui, chers amis, dans la nouvelle alliance, c'est l'Église, sanctuaire et édifice spirituel qui est le signe de la présence de Dieu au monde et parmi les siens. L'Église est la présence de Dieu et le signe de la présence de Dieu au monde et aux siens. Oui, je le disais, de tout temps, les hommes ont voulu des signes pour croire, des signes visibles, concrets, irréfutables. Thomas qui a accompagné Jésus tout au long de son ministère, alors que maintenant il est ressuscité, il veut voir pour croire, il veut toucher les cicatrices. Les Juifs, eux, ils demandaient des miracles à Paul. Les Grecs, c'est la raison qui prime. Et Paul de s'écrier, « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Et si je me permettrai, je rajouterai « et ressuscité. » « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Voilà la base sur laquelle le Seigneur édifie son Église. Voilà la base sur laquelle va se fonder le message de l'Église et par lequel elle va être signe de Dieu en donnant à voir au monde le Christ crucifié et ressuscité. Le matériau pour la construction, ce n'est plus du bois ou des pierres, mais la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. La conséquence de cette vérité que proclame l'Évangile est que puisque nous sommes chacun de nous et ensemble une habitation de Dieu en esprit, nous sommes aussi comme le temple de l'ancienne alliance, appelés à manifester devant nos frères et nos sœurs et devant le monde la présence de Dieu au milieu de nous. Et ceci m'amène à considérer une autre question, une question qui se pose à nous. Est-ce que nous, qui sommes ses enfants, est-ce que nous, nous savons encore montrer et manifester que le Seigneur est vivant au milieu de nous? Comment, chers amis, comment donnons-nous à voir le Seigneur à nos contemporains? Comment sommes-nous signe de la présence du Christ dans ce monde et parmi les siens? Bien, vous le savez aussi bien que moi. Ce signe, c'est l'amour et la communion fraternelle. Ce sont là les signes. À ceci, tous connaîtront, À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je crois que vraiment ici, Jésus nous donne le signe par excellence. À ceci, tous connaîtront. À ceci, tous connaîtront. Il y a là un grand chantier pour la construction. Il y a là aussi un grand danger, c'est l'entre-soi. On est bien ensemble, on s'aime, on se fait du bien, merci Seigneur. C'est une vraie bénédiction, mais attention, parce que cela peut devenir un piège. Nous avons notre petite chapelle, on est bien au chaud. Mais qu'en est-il de l'ensemble de son édifice? Qu'en est-il du rayonnement de l'Église dans le monde? Quelle lumière donne-t-elle à voir? En effet, ces tous dont nous parle Jésus sont aussi ceux du dehors, ceux qui ne le connaissent pas. Comment sommes-nous, pour nos contemporains, individuellement et communautairement, signe de la présence du Christ en nous, au milieu de nous et dans le monde? Si le Seigneur est vivant au milieu de l'Église, l'Église est le reflet de son Maître. Si j'osais, je dirais que l'Église rayonne le Christ. Jésus ne manifestait pas seulement son intérêt, son amour à ses disciples, à ceux qui étaient là autour de lui, mais à chacun de ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Car Jésus sortait. Jésus sortait, Jésus marchait, Jésus allait à la rencontre. Et Jésus ne changeait pas de trottoir quand il voyait venir un problème. Puisque l'amour est le signe de sa présence, le donner à voir, c'est d'abord et essentiellement être animé de son amour. Le donner à voir, c'est lui ressembler. Le donner à voir, c'est être comme lui, ouvert, généreux, désintéressé. Et pas simplement dans notre petit cercle d'Église. Le donner à voir, c'est aussi être animé de son amour, dans l'accueil, en particulier de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont petits, de ceux qui sont dans le besoin. Le donner à voir, c'est aussi le présenter aux autres comme étant notre maître, celui à qui nous voulons être joyeusement, volontairement soumis. Le donner à voir, c'est encore marcher dans l'amour, c'est aussi marcher dans la vérité. Car il est lui-même la vérité. Il est en quelque sorte la vérité au milieu de nous. Nous qui sommes ses disciples, si nous voulons vraiment montrer notre maître à notre prochain, si nous voulons vraiment manifester qu'il est vivant au milieu de nous, alors nous avons à être vrais dans nos pensées, dans nos actes, être vrais à l'égard de nous-mêmes, en rejetant toute hypocrisie, tout faux semblant, tout mensonge ou toute dissimulation, car rien de semblable ne peut être en Christ. La vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera l'objet de notre recherche dans sa parole, pour mieux le découvrir, lui, pour mieux le comprendre, lui, et donc pour mieux le suivre, lui, car il est, lui, le chemin, la vérité et la vie. Mieux le découvrir, toujours et encore, inlassablement, et nous émerveiller de ce que nous découvrons, et vivre de ce que nous découvrons, et montrer aux autres ce que nous découvrons, être un signe pour les autres, ce que nous découvrons du Seigneur, de manière à ce que on ne les entende pas encore nous dire « Mais pourquoi Dieu se cache aujourd'hui ?» Ainsi, étant vrais dans l'amour, nous serons sanctuaires et signes de Dieu, vrais dans l'amour. Mais lorsque je parle de sanctuaire, de sainteté, bien des questions se posent. Je vais être un peu moins positif, je vais mettre mes lunettes noires. Ce signe dont nous parlons est-il toujours bien clair, bien visible, bien audible? C'est une question que nous avons à nous poser, vraiment. Peut-être même vous allez me dire que si l'Église est le signe de la présence de Dieu, vous comprenez pourquoi la foi se perd. Peut-être vous allez me dire que j'idéalise en parlant de cette Église sanctuaire de Dieu. Vous allez me dire que ce ne sont peut-être pas les termes les mieux adaptés pour définir l'Église. Et c'est vrai que lorsque nous voyons l'état des églises, pas la nôtre bien entendu, lorsque nous voyons l'état des églises, leur faiblesse, leur manque de foi ou d'engagement, leur manque d'ouverture et d'amour, nous sommes obligés de constater que l'édifice n'est pas encore terminé. Pardon. Nous sommes obligés de constater que l'édifice n'est pas encore terminé et que le signe est bien terne et parfois illisible. Je voudrais à ce propos vous lire juste quelques mots de l'auteur américain Philip Yancey, bien connu dans nos milieux évangéliques, j'espère, je pense. Voilà ce qu'il dit à ce propos. Récemment, je me suis mis à poser des questions à des inconnus. Par exemple, mes voisins dans un avion. Quand je dis chrétien évangélique, qu'est-ce que cela évoque pour vous? J'entends alors des descriptions politiques, des activistes pro-vie, des opposants aux droits des homosexuels, ou des propositions pour censurer Internet. J'entends des références à la morale majority, pardon pour mes prononciations, morale majority, je ne sais pas si quelqu'un est capable de traduire ça avec l'accent français, c'est une organisation dissoute il y a des années de cela. Et il termine en disant, pas une seule fois, je n'ai entendu une description évocatrice de grâce. Pas une seule fois, je n'ai entendu, pour décrire l'Église de la part de ceux qui sont dehors, pas une seule fois, il n'a entendu une description évocatrice de la grâce. Et il termine en disant, apparemment, ce n'est pas le parfum que les chrétiens exhalent dans le monde. Apparemment, ce n'est pas le parfum que les chrétiens exhalent dans le monde. Oui, chers amis, nous qui vivons dans une église, nous sommes bien obligés de reconnaître que tout est encore loin d'être parfait. À commencer par nous-mêmes. Le visage de l'Église est le visage d'un pécheur, a dit Luther. Et oui, l'Église est composée de pécheurs pardonnés, certes, mais de pécheurs tout de même. Nous sommes quelquefois prompts à pointer du doigt les insuffisances ou les faiblesses des églises. Et rien n'est plus aisé que de se laisser aller à la critique. Vous savez, quand on est en dehors, on peut critiquer. Et ça ne se fait pas que dans les églises, hein. Pourtant, si nous étions logiques, nous serions aussi intransigeants sur nos propres faiblesses. Je suis toujours impressionné lorsque je lis la prière de Néhémie. Il s'identifie au peuple qui a été pécheur, alors que lui, c'était un géant de la foi. Il est solidaire. Nous sommes solidaires avec les autres et nous sommes autant pécheurs que les autres. Alors, chers amis, peut-être que là, il faut que nous soyons conscients de quelque chose. C'est que l'Église est encore en construction. L'Église est en chantier. Un jour, elle sera parfaite, parée. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si osé, je dirais qu'il est normal d'y trouver des imperfections, mais je dirais qu'il est injuste de mépriser l'Église, l'œuvre de Dieu, à cause des imperfections présentes. Bien sûr, je ne prêche pas le laxisme, mais il y a une différence fondamentale entre l'attitude de celui qui rejette, qui méprise, qui juge, qui condamne, et l'attitude de celui qui remet en question, qui souligne une inconséquence, mais toujours dans un esprit positif et solidaire avec ses frères et sœurs. La première attitude est destructive, la seconde est constructive. Je termine. Quelle dignité, chers amis, nous donne le Seigneur en nous utilisant, en nous voulant participants et responsables dans son œuvre qui mènera lui-même jusqu'à la perfection. L'apôtre Paul dit, en parlant de lui, et je crois que cela nous concerne aussi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Quelle dignité! Quel privilège aussi est le nôtre d'être individuellement et communautairement un signe de la grâce de Dieu aux yeux du monde. Nous sommes appelés, c'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous, que nous soyons un signe de sa grâce aux yeux du monde et de sa sagesse infiniment variée aux yeux des autorités et des principautés dans les lieux célestes. Je ne sais pas si nous réalisons cela. J'avoue que quand je vois le petit troupeau de Lunel, je me dis, mais là, et oui, même ce petit troupeau de Lunel, le Seigneur veut qu'il soit un vecteur de sa grâce, un signe de sa grâce et un signe de sa sagesse infiniment variée dans les lieux célestes. Mes chers amis, attention, privilège, oui, dignité, oui, fierté, oui, car c'est le Seigneur qui donne. Mais aussi et surtout, humilité. Humilité. Car c'est lui qui donne. Par l'Église, Dieu montre sa sagesse et sa grâce. Mais l'Église n'est que le signe. La réalité, elle est celle du Christ. Nous sommes le signe, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs et qui communique la vie. Jamais nous qui convertissons les gens. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, j'en reviens à Zorro, comme le Z de Zorro, nous ne sommes que la lettre. Mais soyons là vraiment. Soyons là clairement. Souvenons-nous de ce que dit Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. J'ai bientôt fini, ne pleurez pas. Que le Seigneur nous aide à exhaler la grâce qui est en Jésus-Christ, chacun de nous. Qu'il nous aide à exhaler autour de nous, à rayonner de cette grâce. Qu'il nous accorde de continuer notre tâche, je le répète, humblement, à notre place, même la plus petite, humblement et fidèlement, en restant toujours soumis à son esprit, car c'est lui seul qui est le véritable architecte de cette construction qui est encore en chantier, mais qu'il mènera à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. N'oublions pas que nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis. C'est lui le propriétaire. Il s'est acquis ce peuple pour que nous annoncions les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière. Amen.